ainsi que mon épouse, et on est content aussi de revoir Alexandra, que l'on connaît depuis longtemps, puisque nous nous sommes connus il y a bien longtemps à Antibes. Voilà, ça remonte à une trentaine d'années, puisque Alexandra a même à une époque gardé notre petite, quand elle était petite, hein, parce que maintenant elle a 34 ans et elle est aux États-Unis. Voilà, merci à Joël pour son invitation. C'est avec beaucoup de joie que nous répondons à cette invitation, conscient aussi de la responsabilité que ça représente d'apporter la parole de Dieu. Vous avez les salutations des frères et sœurs de Chambéry, on est quasiment voisins, hein, c'est vraiment très proche. Et voilà, je connais un petit peu la région d'Annecy parce que lorsque j'étais enfant, eh bien mon père nous amenait, mon frère et moi-même, en vacances dans cette région. Et ça reste bien sûr un excellent souvenir. J'avais alors entre 5 ans et 18 ans, pendant plusieurs années. Mon père, qui vivait au Tchad, venait 5 semaines par an nous prendre avec lui en vacances. Et on venait entre autres sur cette région. Donc je l'ai connu, j'étais tout petit. Et c'était magnifique. Alors je pense que ça l'est toujours, même s'il y a beaucoup plus de construction et de monde qu'à l'époque. Mais vous êtes dans un beau pays et j'espère que vous savez apprécier la beauté de la région dans laquelle vous êtes. Hier, pour la journée, j'étais à Paris et je me disais, entre Paris et Annecy, c'est pas la même chose. Et si vous appréciez pas vraiment, vraiment le coin où vous êtes, eh bien faites comme moi, allez passer une journée à Paris. Vous allez revenir ici, vous allez vous dire qu'est-ce que c'est beau Annecy. Hein? Voilà. Gloire à Dieu. Voilà, on a prié déjà pour la parole de Dieu et je crois que c'est vraiment un moment important, fondamental. La parole de Dieu, un jour, a bouleversé notre vie. On aura peut-être l'occasion effectivement d'en parler cet après-midi. Mon épouse et moi-même avons été un jour, et comme beaucoup d'entre vous bien sûr, nous avons été un jour bouleversés par la parole de Dieu, mais nous croyons que celle-ci peut encore bouleverser notre vie. Amen. C'est pas juste au début, c'est pas juste une expérience lointaine, mais à plusieurs reprises, j'espère que la parole de Dieu a su bouleverser notre vie, et ce que nous vous souhaitons, c'est qu'elle le fasse encore. Même après, amen. Même après des années de conversion, nous souhaitons que la parole de Dieu puisse encore impacter notre vie, la changer, y apporter des choses nouvelles, enlever aussi des choses anciennes. Alors on va lire un passage dans le livre de l'Exode, dans le chapitre 1er et au verset 22. Exode 1, 22. Exode, chapitre 1er, verset 22. Alors Pharaon donna cet ordre à tout son peuple: vous jetterez dans le fleuve tout garçon qui naîtra, et vous laisserez vivre toutes les filles. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau, et elle le cacha pendant 3 mois. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc qu'elle enduisit de bitume et de poix. Elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. La sœur de l'enfant se tint à quelque distance pour savoir ce qui lui arriverait. La fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner, et ses compagnes se promenèrent le long du fleuve. Elle aperçut la caisse au milieu des roseaux, et elle envoya sa servante pour la prendre. Elle l'ouvrit et vit l'enfant, c'était un petit garçon qui pleurait. Elle en eut pitié et elle dit: c'est un enfant des Hébreux. Alors la sœur de l'enfant dit à la fille de Pharaon: veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour allaiter cet enfant? Va, lui répondit la fille de Pharaon. Et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant. La fille de Pharaon lui dit: emporte cet enfant et allaite-le-moi, je te donnerai ton salaire. La femme prit l'enfant et l'allaita. Quand il eut grandi, elle l'amena à la fille de Pharaon, et il fut pour elle comme un fils. Elle lui donna le nom de Moïse, car, dit-elle, je l'ai retiré des eaux. Amen. Quelle maman ici a été payée par le gouvernement pour s'occuper de son enfant et l'allaiter? Voilà comment Dieu change une situation tragique, catastrophique, en une histoire magnifique. Parce que Dieu fait tout ce qu'il veut. Dieu peut changer une situation terrible en une situation magnifique. Je changerai leur deuil en allégresse. Amen. Dieu avait déjà décidé, avant même que Moïse ne naisse, Dieu avait déjà décidé de se servir de lui. Et Dieu voit dans ce bébé qui vient de naître et qui se retrouve ensuite sur l'eau, Dieu voit toute la suite, y compris un jour, 80 ans plus tard, la traversée de la mer Rouge, le don des 10 commandements sur le Sinaï. Dieu voit déjà tout ça. Ce bébé qui un jour affrontera Pharaon, le tout-puissant roi d'Égypte, parce que Moïse aura à ses côtés le tout-puissant. Parce que pour affronter Moïse, pour affronter Pharaon, il fallait avoir Dieu avec soi. Vous imaginez bien. Dans toute cette histoire, un élément est fondamental, c'est la foi de ses parents. La foi de ses parents, il en est question dans Hébreux 11, 23, je vais vous le lire. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents, parce qu'ils virent que l'enfant était beau, et qu'ils ne craignirent pas l'ordre du roi. Amen. C'est grâce à la foi de ses parents, cette foi qui a été cultivée, travaillée dans leur vie, que Moïse va vivre et sera confié entre les mains de Dieu, de la providence divine. L'histoire grandiose de cet homme, Moïse, tout ce récit biblique extraordinaire qui a des conséquences sur toute l'histoire d'Israël et même sur notre histoire, toute cette révélation de Dieu, tout cela a pour point de départ la foi extraordinaire de ses parents, la foi d'un papa, d'une maman, qui, grâce à leur foi, ne vont pas être comme les autres. Ce qui m'amène à dire aussi que le manque de foi peut être une véritable catastrophe. Ainsi, par la foi, ils vont laisser vivre ce garçon jusqu'à l'âge de 3 mois, et c'est par la foi qu'ils vont le confier à la grâce de Dieu, le confier entre les mains de Dieu. Il y a un moment qu'on ne peut pas imaginer tellement il est terrible. C'est le moment où cette maman met le bébé dans ce petit bateau, parce que finalement cette caisse, c'est comme un petit bateau. Imaginez un peu ce moment. Il y a ce petit bateau. La maman met le bébé dans ce petit bateau. Elle met cette petite caisse sur le fleuve, le Nil. Elle le tient, et à un moment, il faut le lâcher. Vous imaginez ce que ça représente à ce moment-là pour une maman qui a ce bébé de faire ça? C'est pas grand-chose. Il s'agit juste, je tiens le petit bateau et je le lâche. Je peux refuser de le lâcher. Refuser de lâcher ce petit bateau à ce moment-là, c'est refuser de permettre à Dieu d'intervenir. Mais heureusement, cette femme va agir par la foi, et au moment où elle lâche, elle cesse de maîtriser l'avenir de son enfant. On aime bien s'occuper de l'avenir de nos enfants, et quand ils arrivent à un âge où on ne maîtrise plus, aïe aïe aïe, c'est difficile. Eh bien là, il a 3 mois ce bébé, lorsque la maman ne va plus rien, absolument rien maîtriser de l'avenir de son enfant. C'est un moment terrible. On a du mal à imaginer ce qu'elle a pu ressentir à ce moment-là. Seigneur, maintenant, je ne peux plus rien faire, je lâche. C'est toi qui prends la suite. C'est difficile comme moment, ça, hein ? C'est toi qui prends la suite des événements en main. Et quelle suite? Puisqu'il sera recueilli par la famille la plus riche et la plus puissante de l'époque. Ça vaut le coup de laisser Dieu agir, parfois, et même toujours. Le bébé sera recueilli donc par la fille de Pharaon. Même dans les studios d'Hollywood, on ne voit pas une histoire aussi belle hein, et aussi grande, parce que Dieu est plus grand que les studios américains de cinéma. C'est la providence divine qui s'enclenche sur la vie de Moïse grâce à un couple qui décide de croire que Dieu va veiller sur lui. Parce qu'il croit que Dieu va veiller sur lui, il y a cet acte de foi qui permet à Dieu de prendre les choses en main. Amen. Est-ce que par la foi, nous arrivons parfois à lâcher les choses pour permettre à Dieu de prendre les choses en main? Ou est-ce que par manque de confiance, nous voulons absolument tout diriger, tout conduire, tout maîtriser pour essayer de parvenir à ce que nous voulons, nous? Il faut à un moment donné qu'ils agissent, il faut agir par la foi. On lâche prise, on cesse de contrôler, on cesse de s'accrocher et on peut dire à Dieu, « Seigneur, maintenant je ne maîtrise plus, maintenant c'est toi. » Et je veux te faire confiance. C'est difficile. Un geste d'une seconde dont les conséquences sont énormes, mais derrière ce geste, il y a une foi qui a grandi, qui a mûri pendant des années. Il faut que nous grandissions parfois pendant des années dans la foi. Lecture après lecture de la parole, réunion de prière après réunion de prière, culte après culte. Pour qu'un jour nous soyons capables, enfin, de faire un geste de foi comme celui-ci qui a été fait et qui aura des conséquences énormes sur notre vie et sur la vie de certaines personnes qui nous entourent et nos enfants en particulier. On peut penser, un petit peu dans la même idée, au geste de Esther qui décide d'aller voir le roi Assuérus, qui prend un gros risque. Il va toucher le bout du sceptre du roi afin d'intervenir en faveur du peuple juif pour le sauver et ça va réussir. Décision de foi qui a été bien sûr initiée par son oncle Mardoché, mais c'est quand même elle qui l'a fait. N'est-ce pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté? Eh oui, Dieu avait permis que Esther parvienne à la royauté pour qu'un jour elle aille s'approcher du roi Assuérus. Qu'elle ait un échange, quelques paroles, et cela va sauver tout le peuple. C'est l'histoire de Ruth qui va dire à sa belle-mère Naomi une phrase. Bien sûr, derrière cette phrase, il y a toute une réalité spirituelle. Une phrase énorme. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. À partir de cette phrase, qui est bien sûr le résultat d'un processus de foi dans le cœur de Ruth, tout va être bouleversé dans sa vie. Elle va revenir avec sa belle-mère en Israël, elle va se marier avec un homme de Dieu, Boaz. De cette union va naître Isaïe, père de David, et qui entre dans la lignée du Messie Jésus. Tout ça parce qu'un jour, cette femme a dit, cette femme païenne, moabite, a dit à sa belle-mère, « Où tu iras, j'irai, où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. » Ce n'est pas grand-chose une phrase. Il faut 10 secondes pour la dire. Mais ces 10 secondes, elles sont lourdes de conséquences. Et il y a des paroles dans notre vie, bien sûr, qui doivent être suivies d'actes, pas seulement des paroles. Qui sont extrêmement lourdes de conséquences, mais extrêmement positives, parce qu'elles sont apportées dans la foi du Dieu Tout-Puissant qui prend les choses en main. À partir de cette parole, Dieu peut prendre la vie de Ruth entre ses mains, et c'est ce qu'il a fait. Et quelle réussite extraordinaire pour Ruth! Elle avait une sœur, Ruth, qui n'a pas eu les mêmes paroles, qui est repartie dans sa famille. On ne sait pas ce qu'elle est devenue, mais elle n'a pas su mettre sa vie entre les mains du Dieu de Naomi. Des paroles très lourdes de conséquences. On en retrouve dans la vie du Seigneur Jésus, Matthieu 26, 59. Matthieu 26, 59. Les principaux sacrificateurs et tout le Sanhédrin cherchaient quelques faux témoignages contre Jésus, suffisants pour le faire mourir. Mais ils n'en trouvèrent point, quoique plusieurs faux témoins se soient présentés. Enfin, il en vint deux qui dirent : celui-ci a dit, je puis détruire le temple de Dieu et le rebâtir en 3 jours. Le souverain sacrificateur se leva et lui dit : ne réponds-tu rien ? Qu'est-ce que ces hommes déposent contre toi ? Jésus garda le silence. Il garde le silence parce qu'il sait que là, il va y avoir des paroles très graves. Et le souverain sacrificateur, prenant la parole, lui dit : je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. Jésus lui répondit : 3 mots. Tu l'as dit. De plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. Alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements, disant : il a blasphémé. Qu'avons-nous encore besoin de témoins ? Voici, vous venez d'entendre son blasphème. Que vous en semble ? Ils répondirent : il mérite la mort. 3 mots. Tu l'as dit. À partir de ces 3 mots, les conséquences sont énormes. Parce qu'à partir de là, Jésus, bien sûr, il le fait exprès, mais Jésus ne maîtrise plus la suite. Il va laisser faire les hommes. Ces hommes qui pensent diriger, commander la suite, et qui ne font que accomplir ce qui est écrit depuis des siècles. Et Jésus sait très bien que lorsqu'il dit ces 3 paroles, tu l'as dit, et il en rajoute, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel, mais déjà ces 3 mots, tu l'as dit, est-ce que tu es le Fils, le Christ, le Fils de Dieu ? Tu l'as dit. Et là, tout est déclenché. Cela déclenche la providence de Dieu, l'accomplissement des Écritures qui aboutit à la mort de Jésus sur la croix pour nos péchés, sa résurrection, la glorification, le salut possible de toute l'humanité. C'est extraordinaire, mais en même temps, ça fait presque peur de se dire que dans notre vie, un mot, une parole apporté par la foi, peut apporter un tel bouleversement dans notre vie et dans la vie de nos enfants et de ceux qui nous entourent. Parfois, ça ne tient à pas grand-chose. Un oui par la foi, un non par la foi, ou un oui ou un non par manque de foi, cela peut avoir des conséquences importantes. Un geste, une parole, une décision, une attitude qui est prise ou pas, par la foi ou par manque de foi, et qui apporte ou pas un grand bouleversement dans notre vie. Une parole, une attitude, un geste, une pensée, une décision qui permet ou pas à Dieu de prendre notre avenir en main, avec des conséquences incalculables sur notre avenir et sur l'avenir d'autres personnes. Quelque chose qui déclenche l'action de Dieu. Lorsque nous nous sommes convertis, nous ne l'avons pas réalisé, mais lorsque nous nous sommes convertis, bon, nous avons eu quelques paroles, peut-être même pas, c'était peut-être dans notre pensée, « Seigneur, pardon pour mes péchés, Seigneur, je te donne mon cœur, je te donne ma vie. » Et si nous l'avons fait sincèrement, c'est quelques secondes ça. « Seigneur, pardonne-moi pour mes péchés, viens dans mon cœur et change ma vie. » Vous vous rendez compte ? 5 secondes. Mais si on l'a fait sincèrement, vous imaginez quelles ont été les conséquences sur notre vie ? Pour ceux qui sont là depuis des années et des années, cette petite prière-là qui a peut-être même seulement été formulée dans votre tête en 2 secondes, ça a tout fait basculer sur notre avenir spirituel. La conversion, c'est un instant, une seconde. Et les conséquences sont incalculables pour nous et pour nos proches. Certainement que le plus difficile, c'est ce moment où, sur une brève décision qui peut être l'aboutissement d'une longue réflexion, c'est pas comme ça instantané, parce que vous imaginez bien que pour les parents de Moïse, ça faisait un moment que ça tournait dans leur tête, là. Qu'est-ce qu'on fait ? On va au fleuve, là, pour le mettre aujourd'hui ou demain ? Parce que ça faisait 3 mois qu'ils le cachaient. On y va, on n'y va pas, demain, après-demain ? Qu'est-ce qu'on fait ? Seigneur, au secours. Eh oui. On cesse de maîtriser notre vie, une situation, pour se lancer dans l'aventure de la foi. L'aventure de la foi, où l'on n'est plus aux commandes du navire et l'on dit « Seigneur, prends les choses en main, tu sais tout. Prends les choses en main, tu connais tout. » Et Dieu attend ces moments-là où nous laissons notre avenir entre ses mains. On chantait autrefois un vieux cantique, peut-être que vous le chantez encore parfois, « Tu connais mieux que moi-même » tous les besoins de mon cœur, et pour mon bonheur suprême, tu peux me rendre vainqueur. Hein? Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. On l'a chanté. Oui, prends tout, Seigneur. Mais, il faut reconnaître que nous n'aimons pas beaucoup ce genre de situation où notre avenir nous échappe totalement. Nous qui aimons être prévoyant. Il y a même des caisses de prévoyance. Hein. Nous qui aimons planifier, on a des plannings. Eh oui. En début d'année, la première chose qu'on achète, enfin plutôt en fin d'année, avant l'année suivante, on achète un agenda et dans les premières pages, il y a un planning pour toute l'année. Et même à la fin, il y a déjà le planning de l'année suivante. C'est pas comme ça ? Eh oui. C'est parfois très bien, mais parfois il faut quand même laisser Dieu faire à notre place. Est-ce que nous permettons à Dieu de faire les choses à notre place ? Est-ce que nous arrivons encore à laisser Dieu prendre les choses en main ? Ou avons-nous déjà tout planifié ? Avons-nous déjà tout prévu ? Et même si nous avons déjà tout prévu, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose, Dieu a-t-il le droit de changer notre planning ? Est-ce que nous sommes capables de dire, Seigneur, voilà, moi je pense que, mais toi, qu'est-ce que tu dis ? Qu'est-ce que tu penses ? Est-ce que c'est bien ? Est-ce que c'est pas bien ? Ce qui est important pour nous, c'est de grandir dans la foi, cette sorte de foi qui nous permettra d'agir le jour où une situation se présentera à nous et nécessitera, par l'usage de cette foi, de nous lancer. Sinon, nous risquons par manque de foi de ne pas agir selon la volonté de Dieu. Chacun à notre niveau, nous avons certainement déjà été plus ou moins confrontés à ce genre de situation. Ou par la foi, ou par manque de foi, nous avons agi, nous n'avons pas agi, nous avons fait, nous n'avons pas fait. Nous avons parlé, nous n'avons pas osé parler. Faisons attention parce que c'est ainsi que l'on va déclencher ou pas la providence divine sur notre vie. La providence de Dieu sur notre vie, c'est important. Permettre à Dieu de prendre les choses en main pour nous amener dans ce qu'il a prévu pour nous et ne pas l'en empêcher. Nous utilisons souvent ce verset pour les personnes nouvelles. Si tu crois, je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. On pense souvent à ce verset pour des guérisons miraculeuses, mais ce principe est beaucoup plus large. Et c'est en fait par la mise en pratique de ce verset que nous allons permettre ou pas à Dieu de manifester sa gloire dans notre vie. Et finalement, qu'est-ce que nous souhaitons par-dessus tout ? Nous souhaitons que Dieu agisse dans notre vie. Nous souhaitons que Dieu intervienne dans notre vie. Et Dieu le souhaite aussi. Amen. Il souhaite agir dans notre vie, il souhaite intervenir, il souhaite prendre notre vie en main. Nous le souhaitons aussi, mais quelquefois, on a envie de vite reprendre le bateau en main. Si tu crois, tu agis en conséquence, et par ta foi, tu déclencheras un processus divin en ta faveur. C'est l'histoire de cette femme qui va toucher le bord du vêtement de Jésus. Et Jésus dit, « Quelqu'un m'a touché parce que j'ai senti qu'une force est sortie de moi. » Par sa foi, elle est allée vers Jésus, elle a osé aller vers Jésus, elle a osé toucher le bord de son vêtement, et par sa foi, elle a déclenché un mécanisme divin de guérison. Jésus dit, quelqu'un m'a touché, j'ai senti qu'une force est sortie de moi. C'est incroyable ça quand même. Par sa foi, cette femme a déclenché, sans même que Jésus n'intervienne directement, un mécanisme de guérison. Elle n'a pas osé le faire parce qu'elle avait une perte de sang, normalement elle ne devait pas toucher Jésus, et elle a déclenché par sa foi la guérison divine. Ce sont nos attitudes de foi qui vont enclencher notre entrée dans un processus divin pour notre avenir et jusque dans le ciel. Parce que c'est par un acte de foi que nous nous sommes repentis, et cela aura des conséquences, bien sûr, jusque dans le ciel, et pas seulement ici-bas. Les parents de Moïse auraient pu ne pas oser abandonner Moïse et dire, allez, on le garde encore quelques jours. On le garde encore quelques jours. Et puis un jour, les soldats de Pharaon ou autres découvrent que le bébé n'a pas été supprimé et ils le tuent. Et ils le tuent. Mais ils l'auraient gardé encore un peu. Vous imaginez à côté de quoi il passait ? Vous imaginez à côté de quelle bénédiction il passait pour ne pas avoir osé par la foi lâcher ce bébé, mais avoir le désir de le garder encore un peu, encore un peu, encore un peu. Je veux maîtriser encore un peu, je veux garder encore un peu pour moi. Non, confie-le à l'Éternel. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse, hein. Esther aurait pu avoir peur d'aller voir le roi et ne pas y aller pour préserver sa royauté, pour préserver son confort de vie, pour préserver cette facilité de vie qu'elle avait. Elle aurait pu ne pas prendre le risque qu'elle a pris, parce qu'elle a pris un risque. Ruth pouvait repartir avec sa sœur dans son pays. C'est sympa de repartir dans son pays avec sa sœur et retrouver sa famille, ses amis d'enfance, une forme de vie qu'elle avait connue autrefois. Eh bien, c'est pas ça. C'est ce que la sœur de Ruth a fait. Mais Ruth, elle a accepté de changer de vie. Elle part avec sa belle-mère. Elle ne sait pas très bien ce qui l'attend. Elle n'a jamais vécu en Israël, Ruth. Elle n'a jamais vécu dans ce pays qui a des lois très particulières. Bon, bien sûr qu'elle en a entendu parler par sa belle-mère, mais elle ne sait pas. Elle ne sait pas qu'il va y avoir une grande bénédiction avec ce mariage avec Boaz. Et si on n'agit pas ainsi, la providence divine ne s'enclenche pas. Je crois que nous avons le choix, le plus souvent, le choix de la foi ou le choix de la raison ou de la volonté personnelle. Et les deux s'opposent. Il y a des choses qui ne sont pas raisonnables, humainement parlant. Et je redis ce verset, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. » Jésus, si tu avais été raisonnable, tu te taisais et tu finissais pas sur la croix. Au lieu de dire « Tu l'as dit, et même vous verrez les anges, tais-toi Jésus, tais-toi, tu vois pas, c'est ta faute. » Eh non, ce n'était pas le moment de se taire. C'était le moment de parler et d'enclencher le processus divin pour que Jésus se retrouve à la croix, afin que l'on soit pardonné et sauvé. Jean-Baptiste, quand tu vas dire à Hérode et à Hérodias qu'ils ne devraient pas être ensemble, ça t'a coûté la tête, hein ? Tu ne pouvais pas te taire, non ? C'était plus simple. Des fois, se taire, c'est plus simple. Des fois, ne pas dire ce que Dieu veut qu'on dise ou ne pas faire ce que Dieu veut qu'on fasse, ça peut nous sembler plus simple. Allez, lâche-le, ce bébé, laisse-le entre les mains de Dieu. Non, je veux le garder. C'est plus facile de le garder à la maison. Mais on passe à côté du meilleur. Alors on pourrait dire de toute façon, et là c'est important parce que j'arrive vers la fin, de toute façon le plan de Dieu finit toujours par s'accomplir. Eh oui, le plan de Dieu finit toujours par s'accomplir. Et dans un certain sens c'est vrai, sauf que je serai inclus dans ce plan ou pas. Selon ma foi, selon ma capacité d'accepter le plan de Dieu pour ma vie, je rentre dans ce plan ou je n'y rentre pas. Avec ou sans Moïse, la promesse faite à Abraham, parce que tout ça, finalement, ça découle de la promesse d'Abraham, hein, toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Ce peuple sera esclave dans un pays étranger, il en sortira des années plus tard. Tout ça, c'était prévu. Tout était prévu d'avance. Et cette promesse faite à Abraham, Isaac, Jacob, elle allait s'accomplir. Avec ou sans Moïse. Ça se ferait plus tard. Avec ou sans Ruth, Jésus allait naître. Le Messie allait venir. Avec ou sans Ruth. Il faut que l'Évangile, la parole de Dieu, soit annoncée dans le monde entier, alors viendra la fin. Et la fin, ça nous parle du retour de Jésus. Avec ou sans toi, l'Évangile sera annoncé dans le monde entier. Parce que c'est écrit. J'y participe ou j'y participe pas, mais la parole de Dieu sera annoncée dans le monde entier conformément à ce qui est écrit. Et avec ou sans moi, l'Église sera enlevée. Parce que c'est écrit, au son de la trompette, etc. Hein, vous connaissez l'histoire. Nous, les vivants, nous serons enlevés à la rencontre du Seigneur. C'est écrit, ça se fera. J'y serai ou j'y serai pas, mais ça se fera. L'évangélisation du monde se fera. L'œuvre de Dieu se fera, avec ma participation ou sans ma participation. Si Dieu veut un réveil pour la France, et nous prions pour cela, il le fera, avec moi ou sans moi. Et si Dieu le veut, il le fera. Et à un moment donné, il va me demander si par la foi, je suis prêt à me lancer pour participer à cette œuvre dans mon pays. Et j'ai certainement tout à gagner, à lâcher certaines choses pour participer à cette œuvre de Dieu, pour mon pays, pour ma ville, pour mon église. Ce service de Dieu que Dieu m'a confié, je peux. Et ça fait des années peut-être que justement je progresse dans la foi pour qu'à un moment donné, ce soit le moment de lâcher et pour partir par la foi, pour servir le Seigneur. Amen. À quelque niveau que ce soit. Et ça fait des années que je participe à des réunions de prière pour ça. Et ça fait des années que j'écoute des sermons sur la parole de Dieu et que je lis la Bible et que j'écoute des dons spirituels. Ça fait des années, oui, mais c'est bien, mais à un moment donné, il faut lâcher. Je peux ne pas lâcher. Le travail se fera sans moi. Ceux que Dieu a prévu de sauver seront sauvés. C'est comme ça. J'y participerai ou pas. Ça fait réfléchir parce qu'on se dit que des fois, et même souvent, il y a des choses très très importantes dans notre vie qui se déclenchent sur pas grand-chose. Sur un oui, sur un non, sur une décision que je prends ou que je ne prends pas. Je n'arrêterai pas le plan de Dieu, mais j'entre ou pas dans le processus divin pour ma vie. Par la foi, je l'enclenche. Et alors je participe activement à ce plan divin. Par la foi, je l'enclenche dans ma vie et je participe à ce plan divin. Je pense qu'il y a des hommes et des femmes de Dieu qui, à un moment donné, par manque de foi, sont sortis du plan de Dieu pour leur vie. Ils ont quitté le plan de Dieu. Le plan de Dieu a continué, mais il a continué sans eux. comme l'œuvre de Dieu dans cette église continue. Elle continue avec vous. Et elle continue aussi sans ceux qui ne sont plus là. Mais elle continue. L'église d'Annecy ne s'est pas arrêtée à cause de ceux qui un jour sont partis. Et si Dieu a décidé qu'il y aurait une église, et il y en a une et même d'autres à Annecy, ça se fait avec ou sans moi. Et l'évangélisation dans Annecy se fera avec ou sans moi. Et si je suis appelé peut-être à jouer de la musique dans l'église ou à chanter dans l'église et que Dieu veut qu'il y ait des chantres et des musiciens dans l'église, ça se fera. Et si Dieu m'a demandé de le faire et que je refuse, ça se fera quand même. Ça se fera sans moi, mais ça se fera. Et s'il y a un service quelconque auquel Dieu m'appelle, parce qu'il y a un besoin dans l'œuvre de Dieu, Dieu pourvoira. L'œuvre de Dieu se fera. Elle sera peut-être retardée. Elle sera peut-être bousculée. Il y aura peut-être des difficultés qui auraient pu être évitées. Mais ça se fera, avec ou sans moi. Et le plus grand perdant, c'est celui qui aurait pu rentrer dans ce plan divin et qui, par manque de foi, par crainte de perdre quelque chose, n'aura pas osé. Réfléchissons bien, parce que Dieu nous parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. La Bible dit « L'homme n'y prend point garde, aïe aïe aïe, il vaut mieux y prendre garde. » Nous sommes des enfants de Dieu. La particularité des enfants de Dieu, c'est que normalement nous sommes censés prendre garde à la parole de Dieu. Le monde ne prend pas garde à la parole de Dieu. Dans le monde, on ne se demande pas ce que Dieu pense, s'il est content, s'il n'est pas content, si je suis dans sa volonté ou pas. Mais la spécificité du peuple de Dieu, c'est qu'il consulte Dieu. Il consulte la parole de Dieu. Il cherche à accomplir la parole de Dieu. Il cherche à l'entendre, à l'écouter. Nous sommes là pour ça ce matin, essentiellement. Nous cherchons à entendre la parole de Dieu pour savoir ce qu'on va en faire. Alors ça ne débouche pas toujours sur une décision. Il y a d'autres enseignements, bien sûr. Mais finalement, il y a un processus pour nous faire grandir dans la foi, pour qu'à un moment donné, nous puissions agir selon sa volonté, selon son plan, selon son désir. C'est avec tristesse que je me dis, peut-être que parfois, je suis passé à côté. Parce que je n'ai pas osé dire oui quand il fallait dire oui, ou je n'ai pas osé dire non quand il fallait dire non, et j'ai dit non alors qu'il fallait dire oui, ou le contraire, c'est possible. Je ne le sais pas. Comment le savoir? C'est pas évident. Je sais les fois où j'ai bien fait d'obéir. Je me suis aperçu certainement quelques fois que je suis passé à côté, mais on ne sait pas toujours. On n'est pas toujours certain. Mais par contre, quand on est dans le plan de Dieu, on le sait. Parce que quand on est dans le plan de Dieu, parce que par la foi, on est rentré dans ce processus de la providence divine pour notre vie, il se passe des choses étonnantes, des choses qui ne viennent pas de nous. Vous imaginez bien quand même, la sœur de Moïse, elle s'attendait à quelque chose. Le bateau avec Moïse dedans est lâché et elle suit ce petit bateau. Elle espère certainement de tout son cœur qu'il va se passer quelque chose, un miracle. La logique humaine, c'est quoi? Ben, c'est qu'à un moment donné, le petit bateau, il se retourne, ou qu'un crocodile arrive, je ne sais pas, que le petit bateau, il se retourne et puis c'est fini. Et la sœur, elle revient à la maison, elle dit, ben voilà, c'est fini. J'ai suivi le petit bateau pendant un moment et je l'ai vu couler, comme ça arrivait très souvent. Et là, elle revient à la maison et elle dit « Moïse a été recueilli par la fille de Pharaon. » Elle revient chez sa maman. Alors déjà ça, mon petit frère a été recueilli par la fille de Pharaon. Pas n'importe qui, hein. Et elle m'a demandé de lui chercher une nourrice. Alors maman, je viens te chercher. Tu vas aller voir la fille de Pharaon et elle va te payer pour t'occuper du bébé. Si là, on ne voit pas la main de Dieu, c'est qu'on est vraiment mauvais. Quand on est dans le plan de Dieu, quand on rentre dans ce processus, il se passe des choses. Si on ne voit pas la main de Dieu, c'est qu'on a un gros problème. Quand on rentre dans le plan de Dieu, le Seigneur se manifeste. Amen. Il se manifeste. On a fait notre part. Cette part de foi qui est difficile. Et le Seigneur fait la suite. Le Seigneur prend le relais et il fait des choses extraordinaires. Et là, on se dit, heureusement que j'ai eu la foi, que j'ai fait ce qu'il fallait et que j'ai permis à Dieu de prendre les choses en main, parce qu'il fait au-delà de tout ce que j'ai pu penser ou imaginer. Parce que si on avait dit à la maman de Moïse, voilà comment ça va se passer, tu vas lâcher le bébé, la fille de Pharaon va le récupérer, on va venir te chercher et on va te payer pour t'occuper de lui. Il va grandir à la cour de Pharaon. Un jour où il y aura un petit problème, il va falloir qu'il se sauve. Bon, ma foi, ce n'est pas toujours un long fleuve tranquille non plus. Un jour, il va revenir, il va affronter Pharaon, l'histoire des 10 plaies d'Égypte. Il va faire sortir tout le peuple de l'esclavage. Il va traverser la mer Rouge. Il va recevoir les 10 commandements sur le mont Sinaï. Il va amener le peuple jusqu'à l'entrée de la terre promise. Si on avait dit ça aux parents... Ah non, mais attends. Là, ça fait un peu beaucoup quand même. Je sais que Dieu est là, on croit en lui, ok. Mais tout ça pour l'avenir de mon fils, ça fait quand même beaucoup. Et voilà. Merci, frère. Et voilà. Et au départ, qu'est-ce qu'il y a au départ de toutes... Alors là, j'ai résumé l'histoire de Moïse. Et là, j'ai plus que résumé. Hein. Au départ, qu'est-ce qu'il y a? Une maman qui fait ça, qui lâche le petit bateau avec son bébé dedans entre les mains de Dieu. Les conséquences, elles sont incalculables. Et elles nous touchent encore aujourd'hui. Parce que, hein, alors que Dieu nous aide. Amen. On va prier le Seigneur. Seigneur, nous sommes conscients que dans la vie, il y a des choses.